C'est un acte contre un groupe de personnes. C'est un acte raciste et francophobe ici. Alors, c'est très à la mode de nos jours là, de bitcher, pour parler en bon français, contre les francophones. Alors, je reste très, très, très sceptique vis-à-vis le résultat.
Alors qu'en cette fin août, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose. Fin août, de quoi peut-on parler une fin août? Des températures, des orages violents qui provoquent des inondations, des orages exceptionnels qui ont bloqué des viaducs, par exemple, comme tous les ans, mais ça reste exceptionnel. Les températures extrêmement élevées, les plus élevées, depuis qu'on mesure les températures. Ah, maudit réchauffement climatique. De quoi pourrait-on parler aussi? Attention au soleil, les coups de soleil. Bien important de se mettre de la crème. Eh bien, en fait, pour une fin août, il y a pas mal d'actualités. D'ailleurs, quand je regarde le line-up du radioblog, il y a pas mal de choses dont on va parler ou essayer de parler. On pourrait parler d'abord du ministère de l'Environnement du Canada. 10 000 piastres pour des photos, 12 000 piastres pour des restos. Ça va bien à Paris quand on se déplace pour un forum environnemental. C'est la belle vie. Et ça, quelques mois seulement après l'élection de Justin Trudeau. Oh, Justin. Oh, je me sens tout chaud à chaque fois que j'en parle. Trudeau, d'ailleurs, parlons-en. Je vais un peu parler de Justin Trudeau. Puis un coup, je visite une mosquée salafiste qui serait prête à tuer des homosexuels. Et puis le coup d'après, on est tout sourire à la fierté gay de Montréal. Puis voir des enfants voilés, dans le fond, c'est pas bien important. Puis le burkini, oh. D'ailleurs, on va en reparler du burkini parce que cette semaine, il y a eu quelques chroniques qui ont été écrites sur lesquelles je veux revenir parce que le débat, sans trop enflammer non plus les éditorialistes, mais on en parle beaucoup. Puis, comme toujours, il y a souvent des discours biaisés. On essaye de vendre le burkini d'une façon assez... assez curieuse, mais j'y reviendrai plus tard. On pourrait aussi parler de Jacques Daou, Rona, Jacques Daou, Hubert, Jacques Daou, sa démission, Jacques Daou, la commission parlementaire. Mais où est donc passé Jacques Daou? J'aimerais ça qu'on puisse enfin lui poser les bonnes questions en commission parlementaire, si tant bien que si les libéraux veulent bien également les inviter, puisqu'il faut comprendre que à la commission parlementaire, c'est les libéraux qui sont majoritaires. On a entendu un extrait de Yves Desgagnés, invité à RDI. Merci d'ailleurs RDI pour l'extrait, qui parlait du jugement de Richard Henry Bain, qui a eu lieu après 11 jours de délibération. Les jurés ont décidé de le condamner pour meurtre sans préméditation. On va y revenir tantôt. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu du bilan de Stephen Harper, puisqu'il a annoncé il y a quelques jours qu'il démissionnait de son mandat de député fédéral de Calgary Heritage. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau. Bienvenue à ce 9e épisode du radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je voudrais commencer par une petite parenthèse, je voudrais vous remercier d'être à l'écoute, vous remercier d'être abonné au feed de ce podcast. Pour les autres, je n'ai qu'une chose à dire, c'est mais qu'est-ce que vous attendez ? Blague à part, je suis très content de voir que le podcast est de plus en plus téléchargé. Je n'ai aucune fixation particulière sur les statistiques, mais ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux que d'être écouté par personne, après tout. J'espère que ce podcast vous plaira, en tout cas. Ce 9e épisode vous plaira. Les podcasts, c'est un peu frustrant. Hein, et puis ça, quand vous écoutez des différents podcasteurs, vous le savez, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ça peut être très pratique, autant pour ceux qui écoutent que ceux qui produisent les podcasts, c'est qu'il n'y a pas de contrainte d'horaire particulière, contrairement à une émission de radio. Si vous la ratez, bien justement, vous devez vous retourner vers les podcasts s'ils sont disponibles. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'interaction. C'est difficile. Hein. Le podcast, c'est quelque chose de pas mal intimiste parce que dans le fond, c'est la plupart du temps, vous écoutez votre podcast individuellement, c'est rare que les gens se regroupent autour d'un laptop ou d'un ordinateur pour écouter en famille un podcast. La plupart du temps, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le métro, vous êtes au travail, vous êtes, je sais pour moi, à la maison, et puis vous écoutez tranquillement votre podcast dans les oreilles. Donc c'est très intimiste, mais d'un autre côté, c'est difficile de réagir sur le fait, aux propos qui sont tenus par les podcasteurs, dans le fond. Et puis ça, c'est un peu... ça serait cool que des développeurs d'applications puissent trouver une façon de mieux interagir avec... avec les producteurs de podcasts, par, je sais pas moi, un pouce levé, un pouce baissé pour dire j'aime pas en fonction des sujets, par exemple. Malgré tout, bien, comme à chaque fois, je vous incite à m'écrire, même si vous êtes en train d'écouter un podcast d'il y a un an, c'est pas bien grave, écrivez-moi à l'adresse suivante, podcast@quebecpresse.com. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Enfin, on a écouté en début d'émission un extrait audio de RDI d'un certain Yves Degagné. Qui est Yves Degagné ? C'est un acteur, réalisateur. Ce qui est intéressant, c'est que Yves Degagné a été embauché par Pauline Marois pendant qu'elle était première ministre, comme une sorte de conseiller en communication. C'était pas trop l'intitulé exact, mais en fait, ça voulait dire ça. Il a été payé une trentaine de milliers de dollars. Le problème, c'est que pendant qu'il était payé, il a également fait un documentaire, réalisé un documentaire qui s'appelait « La Première », au sujet de Pauline Marois. Le documentaire, « La Première », était un projet personnel, qui avait rien à voir, mais... censé ne rien avoir avec sa fonction de conseiller en communication. Il avait dit dans une entrevue d'ailleurs qu'il travaillait jour et nuit sur La Première pendant plusieurs mois, sauf que pendant ce temps, il était payé par les contribuables, ce qui avait un peu fait sursauter l'opposition qui avait demandé dans le fond à ce que le Parti québécois rembourse les sommes qui avaient été payées durant la réalisation de ce documentaire. Chose très intéressante d'ailleurs au sujet de La Première. La Première a été donc diffusée pour les abonnés de Vidéotron en vidéo à la demande, gratuitement, et ce pendant la campagne électorale. Vidéotron qui appartient à Québécois, qui appartient à un certain Pierre-Carl Péladeau. Publicité gratuite donc, sur le dos des contribuables. Mais bon, compte tenu du résultat, ça n'a pas vraiment changé grand-chose apparemment. On va réécouter donc Yves Degagné.
C'est un acte contre un groupe de personnes, c'est un acte raciste et francophobe ici. Alors, c'est très à la mode de nos jours là, de bitcher, pour parler en bon français, contre les francophones. Alors je reste très, très, très sceptique vis-à-vis le résultat.
Je reste très sceptique vis-à-vis des résultats. En fait, Yves Degagné revenait sur la condamnation de Richard and Henry Bain. Et surtout, lui, il était scandalisé par le fait que la préméditation n'avait pas été retenue par les jurés. Excusez-moi. Et donc, pour lui, il voyait un acte francophobe. Vous l'avez entendu, un acte francophobe. Comment dire ? Je commence vraiment à être tanné que des péquistes, pour des motifs politiques, parce que là, en arrière de ça, il y a juste des motifs politiques. Je suis tanné que des péquistes puissent parler au nom de tous les francophones du Québec, alors qu'ils ne représentent pas les francophones du Québec. Ils ne représentent plus les francophones du Québec. C'est terminé. Quand vous regardez je parle pas des sondages, je parle des élections, des résultats des élections. Une majorité de francophones vote contre le Parti québécois. Quand vous ajoutez les voix francophones de la coalition Avenir Québec, de Québec solidaire, du Parti libéral même, quand vous ajoutez tout cela, une majorité de Québécois francophones vote contre le Parti québécois. Donc il va falloir que les Yves Degagné de ce monde cessent de parler pour nous autres. Parce que c'est pas ce qu'on pense. De plus, on va revenir un peu sur ce qui a été dit. Lui, il est scandalisé par le fait que la non-préméditation ait été retenue. Peut-être qu'il aurait préféré qu'il soit reconnu comme irresponsable. Voyons. Et quand on est juré, quand on est au tribunal, c'est une affaire de négociation. Richard Henry Bain avait un passé avec quelques problèmes au niveau de la santé mentale. Et c'est certain que ses avocats ont souligné son passé. Ses avocats, leur rôle, c'est de le défendre. C'est que, dans le fond, leur client puisse faire le moins possible de prison, puis, si possible, même être acquitté. Alors, à la place d'un avocat de la défense, vous auriez parlé de quoi ? Vous auriez souligné le fait qu'il a été arrêté avec une cagoule et en peignoir. Vous auriez, comme je l'ai dit, souligné son passé de problèmes reliés à la santé mentale. Et vous auriez demandé au juré, mais voyons, Richard Henry Bain n'est pas un vrai criminel, c'est un malade, il faut le faire soigner, c'est tout. Et les jurés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme discussion ? Imaginez un peu, en tant que juré dans cette pièce, c'est sûr qu'il devait y avoir, surtout que ça a duré 11 jours, je vous le rappelle, c'est sûr qu'il y a dû avoir des débats entre eux, et puis que certains ont dit oh, « ce gars est malade, on le voit, il n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas le condamner pour meurtre ». Et puis d'autres dans la salle devaient être « écoutez, la préméditation est claire, il avait été sur les lieux, il avait visité le Métropolis avant son attaque. Il avait cherché ses armes chez lui. Il avait apporté les armes au Métropolis. Et ça sent la préméditation à plein nez. N'importe qui pourrait le voir. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un problème de négociation. Les jurés ont négocié, puis 11 jours passant, ça doit être fatigant, la longue, d'être enfermé dans une pièce, d'être séquestré. Complètement isolé du monde, et puis à un moment donné, eh bien, on doit faire des concessions. Et les concessions, c'est quoi ? Eh bien, un groupe a dû concéder que, dans le fond, on ne va pas retenir la préméditation. Mais à ce moment-là, ceux qui étaient dans le camp de la non-responsabilité doivent faire aussi un pas. Et c'est pour ça que, à mon avis, on n'était pas dans la pièce. Yves Degagné non plus n'était pas dans la pièce. Mais à mon avis, la négociation a abouti sur « Ok, on va le condamner pour meurtre, mais sans la préméditation. » C'est quelque chose qui est très courant. OK ? C'est très courant. Ça fait partie... Le procureur a donné le choix au juré entre la préméditation et la non-préméditation, sachant que s'il n'y avait que la préméditation, peut-être qu'on aurait pu finir sur un jugement comme avec Guy Turcotte. C'est ça que Yves Degagné aurait voulu ? L'irresponsabilité du criminel. Encore une fois, tout ça finit par avoir un biais politique. Vous le voyez, Yves Degagné fait partie de cette génération de péquistes parano, paranoïaques qui sont encore en train, en 2016, de compter le nombre de morts sur les plaines d'Abraham et qui voient dans tout ce que font les anglophones une attaque contre eux, contre les francophones. Il va falloir sortir de ce carcan, de ces vieilles habitudes de petit peuple et de se sentir juste fier d'être francophone, d'être québécois et d'arrêter d'aller chercher des poux chez tout le monde. Yves Desgagnés fait partie, dans le fond, de ces vieux extrémistes, de ce parti québécois qui est juste, dans le fond, devenu un parti uniquement générationnel, qui va finir par mourir avec les boomers. C'est un parti aigri qui est de plus en plus malsain, qui sent le vieux, complètement dépassé, et on le voit d'ailleurs d'élection en élection, mais apparemment personne ne semble vouloir réagir et vouloir moderniser ce parti vieillissant. Après la politique provinciale, puisque même s'il s'agit d'une décision judiciaire, ça concernait pas mal la politique provinciale, on va passer au fédéral. Et on va parler de notre beau gouvernement libéral. Et oui, cette semaine, on a parlé de notre gouvernement libéral et puis c'était surtout paru chez Sun News, une nouvelle reprise par, entre autres, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Lors de la conférence de Paris en 2015 sur le climat, la COP21, il y a eu pas mal de réclamations qui ont été faites par le ministère de l'Environnement et par la ministre elle-même, Catherine McKenna. Et il y a eu des réclamations de plus de 12 000 $ seulement pour la nourriture. Alors je lis l'article. Selon les documents obtenus par Sun News, en vertu de la loi d'accès à l'information, pour 16 jours à Paris, Max Guénet, un haut fonctionnaire du département des communications du ministère de l'Environnement, a facturé à lui seul 4 599 $ en repas. En 16 jours, Max Guénet a mangé pour 5 000 $ à Paris. Matt Jones, un directeur exécutif travaillant pour Environnement Canada, a déposé des reçus de 4 176 $ pour une douzaine de jours, alors que Wendy Ways, aussi des communications pour la ministre McKenna, a soumis des dépenses de 3 967 $. Pour sa part, la ministre, qui assistait elle aussi à ces discussions sur les enjeux du climat, a réclamé 1 500 $ pour son périple de 15 jours. Dans le fond, la ministre coûte pas mal moins cher que ses assistants pour la même rencontre. La note globale pour les 155 membres de la délégation, ils sont déplacés à 155. Waouh, ouais, j'en reviens pas là. Sérieusement, je l'avais lu en diagonale cet article, et puis de voir que pour 16 jours, pensez-y, là, 16 jours à Paris, qui est quand même pas une des villes les plus les moins onéreuses dans le fond au monde, pour une conférence sur le climat de 16 jours, ils se sont déplacés à 155 membres de la délégation canadienne qui ont participé à cette rencontre au sommet, comprenant des politiciens, des assistants et des fonctionnaires, bien évidemment, a atteint un peu moins de 1 million de $. De ce montant, 129 000 $ ont été réclamés pour des repas. Waouh, je comprends qu'il y a quand même des frais quand on se déplace à 155, je le rappelle, j'en reviens toujours pas, hein. 155. C'est la belle vie, hein, du Parti libéral, et que donc il y a certains conseillers qui n'hésitent pas à se faire facturer pratiquement 5 000 $ en repas. Mais ça, là, si Sun Media n'en parle pas, s'il n'y a pas de loi d'accès à l'information, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, à Radio Cannes, cette nouvelle est passée pas mal sous le radar. Ça a été évoqué, mais vraiment en filigrane. Évidemment, Radio-Canada, la seule décision qui a été prise par Justin Trudeau depuis son élection, ça a été de redonner de l'argent à Radio-Canada. Vous imaginez quand même pas deux secondes que les fonctionnaires de Radio-Canada vont se mettre à parler contre Justin Trudeau. Hein? Mais ça commence comme ça, c'est les vieilles lubies libérales, les vieilles magouilles libérales. Il n'a pas fallu longtemps pour que, dans le fond, le Parti libéral du Canada retrouve ces vieilles habitudes de dépenser l'argent des contribuables pour un rien. On le voit aussi avec la dette. On donne 1 milliard et quelques à Radio-Canada, on donne au ministère de l'Environnement, on paye des tas d'affaires, des tas de congrès, etc., sur le dos des contribuables. Bon, comme toujours. Mais c'est Justin qui fait la une des hebdomadaires en Europe. Justin qui déchaîne les passions dès qu'il se déplace quelque part. On se croirait à un concert de je sais pas moi, des Beatles dans les années 60. On voit les femmes complètement folles devant les abdominaux de Justin Trudeau. C'est dérangeant, hein? C'est dérangeant. Justin Trudeau, d'ailleurs... On va en parler. Moi, je suis... On parlait des journalistes de Radio-Canada, entre autres. Je suis tanné de... qu'il n'y ait pas un journaliste sérieux qui mette Justin Trudeau en face de ses contradictions. Justin Trudeau, il est bien libre, effectivement, d'aller visiter des temples bouddhistes, des mosquées. C'est correct. Mais le problème, c'est ses contradictions. Il va s'agenouiller dans une mosquée alors que les imams islamistes combattent les homosexuels, combattent l'homosexualité, parfois avec des propos extrêmement durs. Je le disais en introduction, certains imams au Canada, pas en Arabie Saoudite, pas au Qatar, non, au Canada, ici, disent que dans le fond, les homosexuels, on devrait les pendre, on devrait les tuer. Ce sont des représentants du démon, etc. D'un autre côté, Justin Trudeau se dit féministe. Il l'a dit à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises. Ça devient même un peu barbant. Dans le fond, si c'était un vrai féministe, moi, dans mon livre à moi, en tout cas, il n'aurait pas besoin de le dire, ça se verrait tout de suite. Ah oui, c'est parce qu'on est en 2015, c'est vrai. Et puis, il va à la fierté gay. Le problème, c'est que ces deux éléments... Hein, visiter des mosquées salafistes et puis aller à la fierté gay à Montréal, entre autres. Là. C'était la première fois qu'un premier ministre canadien faisait partie du... en fonction. Premier ministre canadien en fonction faisait partie du défilé de la fierté gay. Donc c'était tout un événement. Pourquoi les journalistes ne disent pas ? Ben oui, d'accord, mais d'un côté, il prétend défendre... la communauté est gay, lesbienne, transgenre, j'ai oublié sans doute des termes encore, mais bi, ah oui, il y a les bi aussi. Ok, très bien, mais pourquoi défend-il aussi une communauté islamique rétrograde qui ne reconnaît absolument pas les droits même des femmes ? Même des femmes. C'est quand même curieux. Il se déplace dans une mosquée entouré d'hommes. Il n'y a personne qui pose la question. Il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est juste les apparences ? Oh non, je ne peux pas croire ça. On parle de Justin Trudeau. Il n'y a pas une question d'apparence là-dedans. C'est impossible. Impossible. Mais non. Un premier ministre sérieux comme ça, très... il est constant dans ses prises de position. Il ne peut pas juste penser à son image. C'est impossible. Ouais, parlant d'islam, on va revenir sur un autre sujet que j'ai évoqué la semaine dernière, c'est au sujet du burkini. Parce qu'entre-temps, cette semaine, il y a eu quelques chroniques très intéressantes sur le burkini. Puis, quand on regarde un peu ce qui est paru, on sent que il commence à y avoir un biais journalistique assez incroyable. Déjà, vu que je parlais de Justin Trudeau, ça va surprendre personne. Hein, lundi, ça s'était paru dans La Libre Belgique. Mais ça a été sans doute repris dans des médias ici au Canada. Dans la Libre Belgique, un article, Canada, Justin Trudeau se porte à la défense du burkini, mais comme je disais, ça surprend personne. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu lundi les libertés de culte, garantissant le droit de porter le burkini, symbole selon lui de l'acceptation de l'autre de la part d'une société ouverte. Un article beaucoup plus dérangeant, par contre, qui a été fait dans le journal de Montréal, excusez-moi, je vais le retrouver, c'est ça, c'est dans le journal de Montréal cette semaine, une musulmane défend son choix de porter le burkini. Et on parle d'Elsie Fnesch, qui est psycho-éducatrice à Montréal, qui reste à Laval, et qui défend un bel article avec de belles photos. On voit Elsie Fnesch qui porte le burkini. Et dans l'article, on note, alors la journaliste pose la question, « Depuis quand portez-vous le burkini ?» Elle répond, « Je l'ai adopté l'an passé. Quand c'est sorti il y a 10 ans, ça n'a pas été d'emblée accepté par la communauté musulmane. » Les gens étaient réticents. Il faut dire que les premiers sorties n'étaient pas très beaux. Tu avais l'air d'avoir une tête de gland, paraît-il. Mais les femmes ont commencé à dire pourquoi on se priverait de certaines activités. Puis tranquillement, ça a été adopté. Ça sort les femmes de leur isolement. Ah, c'est cette dernière phrase que je trouve particulièrement significative. Ça sort les femmes de leur isolement. Donc dans le fond, on se dit, bravo, grâce au burkini, les femmes sont plus libres. Ça a été écrit par un journaliste de la presse, en passant, je vais y revenir tantôt. Les femmes sont plus libres grâce au burkini, puis ça les sort de leur isolement. Ça, c'est une musulmane qui porte le burkini qui nous le dit. Ça sort les femmes de leur isolement. La bonne question à se poser, ça serait, mais qui donc isole ces femmes? Qu'est-ce qui fait que ces femmes doivent sortir d'un isolement? Là-dessus, une très très bonne chronique de Richard Martineau sur le burkini. Et d'ailleurs, ça me fait, il revient sur ce qui a été dit par une chroniqueuse de la presse, Agnès Gruda, dans la presse qui écrit textuellement, là, au mot près, le burkini n'emprisonne pas les musulmanes, il les libère. Et Richard Martineau de dire pourquoi? Parce que si le burkini n'existait pas, les femmes musulmanes ne pourraient pas aller à la plage ou à la piscine. Donc, vive le burkini. C'est incroyable. Pourquoi on interdit aux femmes d'aller à la plage et à la piscine sans burkini? Richard Martineau de continuer. C'est comme si je félicitais les Américains racistes des années 60 d'avoir créé des places pour les Noirs à l'arrière des autobus. Waouh, c'est cool de permettre aux Noirs de voyager à l'arrière des autobus. Comme ça, ça leur permet de se promener, d'aller travailler, au lieu de rester chez eux. Finalement, la ségrégation dans les autobus n'emprisonne pas les Noirs. Au contraire, ça les libère. Richard Martineau fait un peu dans l'exagération, mais pas tant que ça. S'il n'y avait pas le burkini, qu'est-ce que feraient ces femmes? Elles ne pourraient pas aller à la piscine, elles ne pourraient pas aller à la plage. Donc, elles resteraient chez elles? Elles resteraient voilées chez elles? C'est sûr que, comme je le disais, on hésite entre la liberté puis l'interdiction, parce que interdire aux gens de porter quelque chose, on ne devrait pas avoir besoin de le faire. Mais en même temps, je vais vous lire une partie d'un article de Yann Sénécal que j'ai cité aussi la semaine passée, que je vous conseille d'ailleurs de suivre. Il a une page Facebook qui s'appelle Pilule Rouge, et un site d'ailleurs, j'imagine, mais je vais rarement, c'est pilulerouge.ca. Et il a publié d'ailleurs sur pilulerouge.ca un article sur le burkini. Et puis à un moment donné, il dit, il cite une phrase de Mencken qui est très bonne, qui est très bonne. Je suis d'accord aussi avec ça. C'est la citation, c'est « J'aime la liberté, mais pas au point de l'imposer à quiconque ». C'est vrai que ça fait réfléchir. Yann Sénécal, plus tard, il dit « Laissez les femmes porter les vêtements qu'elles veulent. Certaines le font par choix, d'autres sont forcées de le faire par leur mari. Que voulez-vous, on n'y peut rien ». On ne sauvera pas ces femmes en mettant des interdictions de port de vêtements religieux dans les lieux publics. Tout ce que l'on risque de faire, c'est inciter les maris oppressifs à confiner leurs femmes au domicile. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Qui sait, peut-être qu'en portant ce vêtement, la femme musulmane peut avoir un semblant de vie normale sans risquer de se faire foutre une baffe en rentrant à la maison. Why? Moi, je suis en faveur de la liberté, comme beaucoup. Il y a pas grand monde, je pense, qui sont là à dire « Oh non, on veut... moi, je veux interdire tout, puis je veux des interdictions, je veux... » Je comprends que c'est un débat qui est difficile, puis qui est difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé à l'extérieur de chez nous, hein, pas trop se regarder le nombril. On peut citer par exemple ce qui s'est passé par exemple en France, où pendant les années 70, 80, 90 et encore très récemment, surtout à gauche, la gauche était anti-interdiction. Il ne faut pas interdire le voile. Il y a eu dans les années 80 un débat en France sur le tchador. J'en ai déjà parlé. Le tchador qui était le simple voile qu'on mettait sur la tête, que les musulmans mettaient sur la tête. Et puis, il ne fallait pas l'interdire. C'était quelque chose... il fallait être ouvert. Et puis, on pourrait reprendre exactement les mêmes phrases que cite Justin Trudeau. C'est un gage d'ouverture, de tolérance. Puis, il faut l'accepter. Et puis, si... il n'était même pas question d'avoir un débat contre le tchador, hein. C'était faire preuve de fermeture, de manque de tolérance. Le problème avec ça, c'est que au lieu de s'améliorer, la situation s'est dégradée. Et puis du tchador, on est passé au niqab, à la burqa, chose qui n'existait pas du tout en France. La burqa, puis même dans les pays arabes, c'est quelque chose qui, il y a quelques décennies, n'existait pas. Et petit à petit, on en a vu de plus en plus. Ça, c'est l'arrivée d'habits de plus en plus... De rendre les femmes de plus en plus couvertes, dans le fond, parce que c'est ça le débat, et est arrivé en même temps que les islamistes radicaux. Et nous, en tant que société occidentale, on accepte ça au nom d'une soi-disant tolérance. C'est un grave problème. Et la permissivité... comme le suggère Yann Sénécal, par exemple, ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on est forcé d'avoir un débat. Ça, c'est correct. Il n'est pas contre le débat. Les libertariens ne sont pas contre le débat. Il n'y a pas de problème. Mais la liberté, malheureusement, ça prend un cadre parce que, comme je l'ai déjà dit... sans cadre, ça supposerait dans le fond que tous les humains sont raisonnables, mais ce n'est pas le cas. On place les femmes dans une sorte de... à l'écart de la société, et puis on nous dit, nous, société, de tout accepter. Mais le problème, c'est s'ils se placent à l'extérieur de notre société, comment veulent-elles en faire partie? C'est ça le gros problème. J'en reviens pas qu'on ait à ce genre de débat. Puis Lise Ravary aussi, dans le Journal de Montréal, dit, je n'en reviens pas non plus, hein, interdire le burkini équivaudrait au rejet de ces femmes vulnérables, et si ce n'était pas plutôt elles qui rejettent la société dans laquelle elles vivent. Tu sais, la question de Lise Ravary est très intéressante. Et d'ailleurs... toujours dans le même article de Lise Ravary, elle finit par une citation qui est très bonne et qu'on voit souvent, qu'on peut lire souvent chez les musulmans, les vrais musulmans ouverts et modernes. Lise Ravary écrit « Je n'oublierai jamais les paroles d'une syndicaliste et universitaire féministe que j'ai connue en Algérie. Ici, on se bat pour que les femmes puissent aller librement, cheveux au vent, et les imams nous répondent qu'au Québec, les féministes sont pour le voile. » C'est ça le grave problème. Parce que si je parlais des contradictions de Justin Trudeau tantôt, on peut aussi parler des contradictions de ceux qui se disent, qui se prétendent féministes ici au Québec. Les féministes ici au Québec défendent ce que les féministes voudraient voir abrogé dans leur pays. comme en Algérie par exemple, mais pas seulement, en Arabie Saoudite. Il y a des féministes qui se sont battues, qui se sont fait tuer en Égypte, qui se sont fait tuer en Iran, par exemple, parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile. Et des féministes ici, au Canada, au Québec, défendent le voile islamique qui opprime les femmes. C'est le monde à l'envers. Ah ouais, on va parler de Jacques Daou maintenant. On revient donc à la politique provinciale. On revient un peu sur les derniers événements de cette semaine, en particulier la commission parlementaire qui a débuté. Alors, on va revenir. Déjà, on parle de RONA, d'Investissement Québec, et puis on a peut-être un peu perdu des éléments qui pourraient nous aider à la réflexion. RONA, donc, a été vendu à des intérêts américains. Des intérêts américains. Ce fleuron québécois, donc, qui vend des vis et des écrous, a été vendu aux Américains. Le problème, c'est que Investissement Québec avait des parts dans RONA, et lorsque Jacques Daou a été ministre, Investissement Québec a vendu les parts qu'elle avait donc dans RONA aux Américains. Et là, s'en est suivi un gros débat, comme vous pouvez l'imaginer, où on vendait un fleuron incroyable québécois aux Américains. Et puis en plus, les parts d'Investissement Québec ont été laissées au vent quasiment. On nous les a pratiquement volées si on écoutait certaines personnes. Et Jacques Daou s'est toujours défendu en disant « Non, moi, je n'étais pas au courant qu'Investissement Québec puisse vendre les parts qu'elle avait de RONA ». Et puis, bon, il y a eu quelques articles de part et d'autre sur l'éventuelle implication de Jacques Daou ou sur le fait de son ignorance, dans le fond, parce que, veut pas, soit il était incompétent, il a pris une mauvaise décision, toujours selon les commentateurs, pas selon moi, ou il n'était pas au courant, et à ce moment-là, il y a un problème aussi de crédibilité ou de compétence. Jusqu'à cette semaine, donc, où une commission parlementaire a été ouverte par rapport à RONA et à Jacques Daou, et son conseiller politique, son ancien conseiller politique, n'a pas hésité à dire en commission que, dans le fond, oui, Jacques Daou était bien au courant, il l'avait avisé avant la vente des actions aux mains d'Investissement Québec. Et que, dans le fond, Jacques Daou était favorable. Enfin, il était ni favorable ni défavorable. Dans le fond, si j'ai bien compris, il avait l'air de vraiment s'en foutre. Et que, oui, il était d'accord avec la vente de RONA. Bon, il y a deux affaires là-dedans. La première, que un soi-disant fleuron québécois soit vendu à des intérêts américains, ça arrive, c'est correct. Je vais certainement pas déchirer ma chemise pour ça. Depuis la vente, RONA vend toujours des vis, des écrous, des escabeaux et puis des barbecues. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de révolution chez RONA et je vois pas le scandale. Surtout que au Québec, les achats de compagnies étrangères versus les ventes à des compagnies étrangères est favorable au Québec. C'est-à-dire que les compagnies québécoises achètent plus d'intérêts étrangers qu'on vend à des intérêts étrangers. Donc, on se félicite, par exemple, de l'achat de Couche-Tard d'une compagnie américaine. On s'en félicite. On dit « Waouh, Couche-Tard bon, entre nous, c'est rien que des dépanneurs, mais quand même, hein, y a un incroyable réseau de dépanneurs en Amérique du Nord, sous la bannière Couche-Tard, entre autres. On s'en félicite, et puis on a raison de s'en féliciter. Puis, d'un autre côté, il faudrait scandaliser parce que RONA est vendu à des intérêts étrangers. On l'a vu aussi avec Saint-Hubert, un autre grand fleuron québécois, Saint-Hubert, qui est vendu à des intérêts ontariens. Excusez, déjà, l'Ontario, ça reste le Canada, on est dans le même pays. Et puis, ben, ça reste des cuisses de poulet. Il me semble pas qu'ils vendent autre chose encore aujourd'hui. Là. C'est ça. Puis il y a toujours la crémeuse et la traditionnelle, me semble. Ça, ça n'a rien changé. C'est sûr que ce qu'on appelle les nationalistes économiques ont peur que des sièges sociaux soient déménagés. Et oui, ça peut arriver, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est comme ça. D'un autre côté, il y a des sièges sociaux qui vont être installés au Québec parce qu'on a racheté des compagnies étrangères. Il n'y a personne qui se scandalise aux États-Unis parce qu'il y a une compagnie canadienne qui a acheté, comme Couche-Tard, qui a acheté une compagnie américaine. Ça fait partie du libre marché. Il faut l'accepter. Et pour l'instant, ben on est pas mal gagnant dans ce jeu-là. Donc, il ne faut pas se plaindre. Mais, et ça, c'est le deuxième volet, mais le problème, c'est Jacques Daou. Il peut être d'accord avec la vente des actifs de Rona par Investissement Québec, mais il faut qu'il l'assume. Il faut qu'il le dise, un peu comme je l'expliquais à l'instant. C'est oui, la vente est intéressante pour Investissement Québec, la vente de Rona, donc j'ai donné mon accord. Pourquoi mentir ? Parce que je pense, entre nous, là, je pense qu'il a menti. Mais pourquoi n'a-t-il pas assumé ? En parlant de Jacques Daou, on peut parler aussi d'Uber. Jacques Daou qui n'a jamais utilisé Uber, qui a toujours été dans le sens des taxis. Enfin, sa démission va peut-être nous amener dans l'ère du commerce électronique et de l'économie de partage, comme on dit. Moi, je vais vous dire, entre nous, j'avais jamais utilisé Uber jusqu'à cet été. Et en fait, c'est les taxis qui m'ont incité à l'utiliser. À force de voir les taxis bloqués à l'aéroport de Dorval, à force de voir les taxis vouloir menacer de bloquer, de faire des blocages, d'entendre comment chevrette. Tu sais, quand t'es une industrie qui veut changer son image, puis quand tu prends Guy Chevrette pour te représenter, c'est que ça va mal des gens en partant là. Tu sais, Guy Chevrette, Jacques Daou. Tu sais, toute cette vieille génération qui, il y a quelques décennies, se serait battue pour les livreurs de lait et pour les vendeurs de journaux dans la rue, elle a crié, là, ou même pour les allumeurs de réverbères, hein, les réverbères au gaz qu'on allumait à la main. Ces gens-là auraient eu ce même discours donc il y a quelques décennies, puis on les voit aujourd'hui pester contre Uber. « Ah, Uber, paye pas la TPS et la TVQ. » Là, on va revenir au béaba de l'économie. Les entreprises ne payent pas les taxes. Elles ne payent pas les taxes, ni la TPS, ni la TVQ. Ce sont les consommateurs qui payent les taxes. Parce que si vous faites payer 10, 11, 12 ou 5 % selon que vous parlez de la TPS ou de la TVQ à une compagnie, à qui pensez-vous qu'ils vont la faire payer ? Aux consommateurs, bien entendu. Donc arrêtons de dire que Uber ne paye pas ses taxes. C'est les consommateurs qui payent les taxes. Autant dire que pour l'instant, ben, c'est juste les consommateurs qui ont un peu plus d'argent dans les poches. Malgré tout, je suis d'accord pour qu'on aménage la législation fiscale pour Uber. Je suis pas pour non plus le free-for-all et puis donner tous les pouvoirs et tous les droits à Uber, surtout en défavorisant les taxis. Par contre, je ne suis pas pour qu'on impose les mêmes règles à Uber qu'on impose aux chauffeurs de taxi. Et c'est là où Jacques Daou était, à mon avis, complètement dans le champ. Vous avez un système épouvantable, d'un côté, les taxis, avec des droits très dispendieux, avec des taxations, avec une législation extrêmement lourde. Puis d'un côté, vous avez Uber, où c'est fantastique, hein, vous avez une application. Vous voyez tout de suite, dès que vous l'ouvrez, l'application, vous savez dans combien de minutes vous pouvez vous attendre à avoir un véhicule en face de chez vous. Et puis, vous savez Au moment de la réservation, combien ça peut vous coûter? Combien ça va vous coûter? Vous savez quel est le nom du conducteur? Vous savez comment il est coté? Parce que à chaque client, à chaque voyage, eh bien, on invite les clients d'Uber à coter leur chauffeur de taxi. Donc, s'il est mauvais, ben, vous pouvez décliner la course. Hein. Vous pouvez vous commander un autre chauffeur. Et puis, une fois qu'il est arrivé, ben, une fois qu'il a fait sa course, vous n'avez rien à payer, vous sortez du véhicule, vous dites au revoir, bien sûr, au revoir. Et puis, c'est automatiquement enlevé de votre compte PayPal ou de votre carte de crédit. Donc, c'est pratique. Alors, plutôt que de dire, OK, on va essayer de trouver un compromis entre les deux, Jacques Daou a choisi la pire des solutions, c'est-à-dire de prendre le vieux système qui date de plusieurs décennies, qui est vieux comme dans le fond les chauffeurs de taxi, ou les taxis en général, et puis de l'imposer à tout le monde. Ouais, toute une innovation, hein. Minutes de podcast, et puis il me reste un sujet politique. C'est bien, ça avance bien. Je vais vous parler de Stephen Harper. Et puis, quitte à augmenter ma banque d'amis, eh bien, je vais vous le dire aujourd'hui, même si je pense que vous le devinez quand même un peu, je voudrais remercier Stephen Harper. Je voudrais le remercier parce que, même si ce n'est pas le personnage le plus exubérant, le plus extraverti, Stephen Harper a gouverné. Il a mis toute son énergie là-dedans, il n'a pas fait de vagues particulières. Puis en parlant de vagues, il a dû souvent aller à contre-courant du politiquement correct, des médias en particulier, sur pas mal de sujets. Mais quand on regarde le bilan, bien, le Canada n'est pas sorti plus faible, n'est pas sorti plus faible que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2006. En 2006, d'ailleurs, il était Premier ministre d'un gouvernement minoritaire, il faut le rappeler, pour lequel on avait dit « Ah, ça tiendra pas, il se fera battre aux prochaines élections qui reviendront d'ailleurs très rapidement ». On le donnait donc battu à plate couture, puis pourtant il a été réélu majoritaire et il est resté pratiquement 10 ans au pouvoir au Canada. On pourrait aussi parler de son premier fait politique, premier fait marquant, qui a été d'unir les partis de droite. Hein, parce qu'il faut se souvenir, quand il est arrivé, il y avait l'Alliance canadienne, puis le Parti conservateur. Et il a réuni ces deux forces, ce qui a permis d'ailleurs sa première victoire. Parce que tant que la droite canadienne était isolée, enfin était morcelée comme ça entre l'Alliance canadienne et puis le Parti conservateur, c'était difficile pour eux de remporter les élections. Donc ça a été quand même un premier fait marquant, malgré le fait que, tu sais, on dit souvent Stephen Harper, il est plate, il est beige, hein. On aime dire ça, et puis c'est, comme je le disais, c'est pas, oui, c'est vrai, il est pas le plus extraverti, mais quand on regarde sa feuille de route, bien, il a pas à rougir de ça, hein. Il a réuni les forces de droite, il a remporté les élections, il a été minoritaire, il était donné perdant, il a gagné, il est resté au pouvoir 10 ans, il a permis au Canada de relativement bien s'en sortir de la crise comparativement à d'autres pays. Il a même quitté le pouvoir avec un surplus budgétaire de plus de 1 milliard avant que les libéraux arrivent pour remettre le pays en déficit, dans le fond. Mais ça, c'est un autre sujet. Les banques canadiennes sont réputées être les parmi les plus stables, sinon les plus stables au monde, les plus solides au monde. C'est pas uniquement grâce à Stephen Harper, mais quand même, hein, il y a des lois qui sont là pour garantir cette force. Et il a aussi, puis ça, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur, et il l'a rappelé d'ailleurs dans sa petite vidéo de remerciement. Il a quand même permis de placer les droits des victimes avant ceux des criminels. Et ça, je vous le dis, je le répète, c'est très très important à mes yeux. Il faut qu'on arrête de défendre les droits des pédophiles, des assassins, et qu'on pense d'abord aux victimes. Et quand on parle de victimes, c'est aussi les familles. Et ça faisait partie du projet conservateur, et il a avancé là-dessus, sur ce sujet. J'espère que les libéraux n'iront pas jusqu'à abroger les lois en faveur des victimes, parce que ça serait une erreur épouvantable. Donc merci Monsieur Stephen Harper pour toutes ces années à vous battre contre vents et marées. Je pense que quand on regarde ce qui est en train de se passer avec notre Justin Trudeau, notre selfie PM, notre Premier ministre des selfies, bien peut-être que certains d'entre vous qui ont peut-être voté libéral vont commencer à regretter notre ancien Premier ministre. Vous trouvez pas? D'entendre la musique d'une télésérie qui s'appelle Hell on Wheels, qui est une excellente télésérie. Je voulais absolument vous en parler, et un peu comme la semaine dernière, je vous parlais un peu télésérie, mais je vous parlais de celle-là surtout. Hell on Wheels, qui vient de se terminer, donc après 5 saisons, mais des saisons qui se regardent vraiment très rapidement, très facilement, avec beaucoup de plaisir. Donc les 3 premières ont 10 épisodes chacun, et les 2 dernières ont 13, respectivement 13 et 14 épisodes. Donc ça peut se regarder très vite lors d'un marathon, par exemple, d'épisodes. Pourquoi je veux vous en parler? Ben, je vais vous parler d'abord de l'histoire. C'est l'histoire de Cullen Bohannon. Je prononce très mal, mais en fait, bon, c'est pas trop important son nom. C'est un ancien officier confédéré. Donc l'histoire se passe juste après la guerre civile américaine, donc la guerre de sécession. Et Cullen part à la chasse. Des 3 soldats du Nord qui ont assassiné sa famille, sa femme et ses enfants. Et donc l'histoire commence comme ça. Il part à la poursuite des 3 individus, des 3 assassins. Et pendant sa poursuite, il finit par échouer dans un des chantiers de construction du réseau ferroviaire américain. Puis il se trouve que à cette époque, c'était devenu la priorité du gouvernement central, du gouvernement de Washington, parce que c'était une des façons de réunir l'Est et l'Ouest. Et puis le réseau ferroviaire a aussi créé un boom économique, puisque ça a permis plus facilement les déplacements. Excusez-moi. Les déplacements des Américains qui vivaient à l'Est. Hein. Je me souviens plus des délais, mais par cheval, ça pouvait prendre des mois pour rejoindre l'Ouest du continent, alors que avec l'arrivée du train, ça pouvait prendre dans le fond une dizaine de jours, ce qui était pour l'époque un progrès prodigieux. Donc ça a permis le développement de plusieurs villes centrales dans le centre des États-Unis, dans la région qu'on appelle les prairies. Ça a permis aussi la ruée vers l'or. Ça a permis le développement de régions agricoles, de faire voyager beaucoup plus rapidement les bêtes, les céréales, etc., vers les régions qui devenaient de plus en plus densément peuplées, en particulier dans l'Est. Et donc l'histoire, on pourrait croire que c'est un western. Ouais, si vous aimez les westerns, vous allez aimer Hell on Wheels, mais ceux qui n'ont pas d'amour particulier pour les westerns vont aussi trouver leur compte, parce que le scénario est vraiment très très bien bâti, les personnages sont incroyables, sérieusement, là. Y a un développement des personnages à l'intérieur de cette télésérie qui est prodigieux. Et puis, ça permet aussi d'en apprendre également sur... sur la construction du train aux États-Unis, puisqu'il y a certaines choses, certains événements et certains personnages qui ont réellement existé, en particulier un des personnages emblématiques de la télésérie qui est Thomas Durant, qui était l'un des patrons, on va dire, de la compagnie de train, la compagnie ferroviaire, et qui a été jugé parce qu'il a détourné des fonds. Il faut dire qu'à l'époque, pour inciter les compagnies à construire, les entreprises à construire la voie de chemin de fer, le gouvernement les payait au mille, hein, ou au kilomètre, si vous préférez. Donc, ces compagnies-là n'avaient pas vraiment d'intérêt à construire le chemin de fer le plus direct possible. Et donc, ça a permis également des détournements de fonds incroyables. Et Thomas Durant a été jugé et condamné d'ailleurs pour ça. Une télésérie définitivement extraordinaire, qui mérite d'être vu aussi pour les paysages, parce que évidemment quand on parle des prairies, on parle des grands espaces, des espaces vierges à l'époque, puisque il y avait très peu de colons qui s'étaient installés, même si dans les faits le tournage a pas mal eu lieu en Alberta, donc ici au Canada. Mais non, très beau paysage, sérieusement, c'est une très très bonne télésérie qui vient de se terminer. Et donc si vous avez l'occasion, si vous cherchez des téléséries à regarder, bien je vous conseille Hell on Wheels. Avant, on va laisser finir l'harmonica. Avant de finir le podcast en musique, comme à chaque fin d'épisode, j'aimerais faire quelques rappels. Le premier, pour me contacter, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante par courriel, donc à l'adresse suivante, podcast@quebecpresse.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse @QCPresse ou évidemment sur la page Facebook de Québec Presse. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 9e épisode du Radioblog. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Et est-ce que je viens de m'engager à faire un podcast la semaine prochaine? Ben oui, apparemment. Donc, pas le choix de faire un podcast la semaine prochaine. En attendant, bien, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas donc à me contacter, à faire vos commentaires. Et puis, on se laisse en musique avec un groupe que j'affectionne énormément qui s'appelle The Black Keys. La toune est issue de l'album sorti en 2014 qui s'appelait Turn Blue et c'est Weight of Love. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.
always up to something, always had a running. I gotta think those days are coming to get you. Now nobody wanna protect you.